Pathologie naturelle, Père Philippe, 23 février 1984, Saint-Joseph.
Après la simplicité de Dieu, saint Thomas traite de la perfection. Vous voyez que s'il avait suivi un ordre, comme on dit aujourd'hui, de théologie biblique, il aurait commencé par la perfection. Parce que ça, c'est affirmé que Dieu est parfait dans l'Écriture. Tandis qu'il n'est jamais dit que Dieu est saint. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il n'est jamais dit, soyez simples comme votre Père céleste est simple. Et comme la simplicité est comme un secret, laissez aux théologiens de le découvrir. Comme l'Immaculée Conception, c'est le secret, parce qu'il y a un parallélisme. C'est l'Immaculée Conception, c'est la simplicité dans le cœur de la créature. C'est la simplicité dans l'ordre de l'amour. Et alors, c'est l'Église qui doit le révéler. C'est très curieux, ces choses-là, parce que c'est intéressant de bien comprendre comment l'Esprit Saint donne certains aspects et nous laisse le soin de découvrir d'autres. La première conclusion de théologie scientifique, il n'y en aurait que celle-là, ça suffirait pour que la théologie scientifique existe. C'est très très beau de voir ça. C'est de dire, Dieu est absolument simple. Après avoir considéré la simplicité de Dieu, il faut parler de sa perfection. Et comme la perfection d'un être est ce qui le fait appeler bon, et quia unum conque secundum quades perfectum est, sic dicitur bonum, nous traiterons d'abord de la perfection de Dieu, ensuite de la bonté. Ça, c'est très intéressant de voir le lien entre perfection et bonté. Nous essaierons de le voir après. Voyons maintenant comme d'une certaine manière l'antinomie entre simplicité et perfection est dépassée en Dieu. En nous, il est bien évident qu'il y a comme une espèce d'opposition entre la simplicité et la perfection. Le bouleau et le cerf. Vous avez la spiritualité du bouleau. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, et il n'y a plus que l'arbre qui a poussé très très droit. Et c'est la spiritualité de ceux qui sont maigres et grands. C'est la spiritualité du bouleau. Puis vous avez la spiritualité, je ne dis pas des petits et des gros, mais la spiritualité du cerf. Ce n'est pas la même chose. Hein. Oui, c'était, je me souviens, à Fribourg, un bon père, le père Ronner, maintenant il est dans le ciel, on peut le dire, le père Ronner, il disait, le petit déjeuner, il gardait plus ou moins bien le silence. Hein. Alors, réflexion du père Ronner, j'ai un Égyptien dans mon cours. C'est tout à fait le type de l'Égyptien. Il est petit et gros. Il y avait le père de Ménas qui écoutait ça à ce moment-là, qui lui-même était égyptien. Il a dit, mais mon père, comme c'était son cousin, il savait bien, mais mon père, je suis égyptien, je ne suis pas petit et gros. Alors, un grand silence. Il y a deux espèces d'égyptiens. On voit très très bien les deux spiritualités. Mais bon, le cèdre et le bouleau. Vous n'avez qu'à réfléchir au point de vue de l'art, c'est la même chose. Il y a un art qui tend vers la simplicité, il y a un art qui tend vers la perfection. Et on ne peut pas unir les deux. On voudrait bien ? Non, il y a une option. Il y a une spiritualité de la simplicité, Saint Jean de la Croix. Il y a une spiritualité de la perfection, Saint François. Très différent. Et ça fait tout de suite deux types tout à fait différents. Alors, comme ça, ils s'entendent bien. Mais c'est différent, c'est pas la même chose du tout. Vous voyez, la simplicité va aller du côté de la pauvreté, le dépouillement. On laisse tomber le plus de choses possibles. Et puis alors, la perfection, on intègre. on assume. C'est toujours le même problème. Est-ce qu'on peut assumer certaines richesses que nous avons, ou est-ce qu'on doit au contraire s'en dépouiller? Alors on peut être parfait sur certains points, perfection de perfection sur un certain point, et simplicité l'autre. Vous voyez, quand je dis Saint François, perfection, il y a aussi une très grande simplicité. Saint François, par rapport aux questions intellectuelles, pas trop, pas trop. Et au contraire, lorsqu'il s'agit de la nature, on assume. C'est très très curieux ça. Et c'est intéressant du reste à voir qu'en nous, il y a une antinomie entre simplicité et perfection. Antinomie, ça ne veut pas dire que l'un chasse l'autre. Non, c'est qu'on est obligé de choisir. On doit choisir pour s'orienter. En Dieu, simplicité et perfection ne font qu'un. C'est un des aspects du reste très très beau de la contemplation de Dieu. Ça. De voir qu'il est saint et sa simplicité est parfaite. Ou plus exactement, sa simplicité ne s'oppose pas à sa perfection. Alors, touchant la perfection, trois questions. Dieu est-il parfait? Est-ce que je peux dire que la manière d'exister de Dieu, c'est d'être parfait? Il est le Cèdre. Dieu est-il universellement parfait, contenant en soi les perfections de tous les êtres? Vous voyez, c'est tout de suite la synthèse, c'est ça qui est très très beau. On n'a jamais posé ça comme question pour la simplicité. Est-ce que Dieu contient toutes les simplicités? Ça répugnerait à la simplicité. La simplicité se dépouille. Donc, aucune composition. On dépouille, on dépouille, on dépouille. Tandis qu'au contraire, la perfection, on assume, on assume, on assume. Et on tout de suite les deux. Il faut saisir ça, la manière dont saint Thomas traite la simplicité et la manière dont il traite la perfection. Troisièmement, peut-on dire les créatures semblables à Dieu? On ne s'est pas posé la question de la simplicité, parce qu'on a vu que du côté de la simplicité, Dieu était omnino simplex et que toute créature impliquait une composition. Donc on ne peut pas se poser la question, est-ce que Dieu est semblable aux créatures par sa simplicité? Non. C'est pour ça que la simplicité, c'est la transcendance. On dit que la perfection sera déjà beaucoup plus l'immanence. Pas entièrement, on va le voir, mais ça va vers ça. Alors, Dieu est-il parfait? Première question. Parfait veut dire achevé. C'est l'objection. C'est-à-dire totalement fait. Si donc il ne convient pas à Dieu d'être fait, comment lui convient-il d'être parfait? Vous voyez, une notion artisanale d'être parfait. C'est la notion artisanale d'être parfait. Le perfectionnisme psychologique, hein, c'est ça, perfectionnisme psychologique. Il faut que les choses soient léchées, bien, bien terminées, complètement achevées. Tant que ce n'est pas entièrement achevé, ce n'est pas parfait. On peut encore en ajouter. Vous voyez, le gros ours qui lèche son petit ours, hein, pour qu'il soit bien léché. Alors quand il est bien léché, il est parfait. C'est la notion première de perfection. C'est très cru, hein, c'est une manière de regarder ce qui est parfait. C'est assez psychologique, ça. Parce que l'ours, on est parent avec lui au point de vue psychologique. Hein. Alors, on voit très bien cette perfection de revenir indéfiniment. Vous savez, quand première dissertation que vous faites, hein, vous voulez qu'elle soit parfaite. Et qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle soit parfaite? Vous avez déversé dans votre dissertation tout ce que vous aviez comme document. On en ajoute, c'est parfait. Bien léché. Chaque jour, on en ajoutait. Alors, deuxièmement, Dieu est le premier principe des choses. Or, il apparaît bien que les principes soient imparfaits. Ainsi, les plantes et les animaux ont pour principe la semence et le germe. Ça, c'est très très joli. Une notion biologique va du point de départ et de la perfection. La perfection, c'est un acmé, c'est un sommet. On est parfait dans son sommet. Tant qu'on peut croître, on n'est pas parfait. Ce qui est du reste juste. Alors on identifie principe et germe. C'est joli comme sophisme. Troisième objection, Enfin, l'essence de Dieu est son être même, avons-nous dit. Mais l'être même n'est-il pas ce qu'il y a de plus imparfait, étant donné, étant ce qu'il y a de plus commun, apte à recevoir toutes les déterminations du réel. Dieu est donc imparfait. C'est vrai que l'essai, c'est ce qu'il y a de plus commun. On peut toujours en ajouter. Donc, c'est pas Dieu parfait. Au fond, la notion de perfection, dans cette dernière, c'est la notion qualitative. Vous voyez, au fond, il y a trois aspects de perfection là-dedans. C'est intéressant parce qu'ordinairement, saint Thomas fait des petites synthèses, hein, comme pour la simplicité. Ben, c'est intéressant parce que le terme de perfection, c'est quand même toujours très intéressant à voir qu'est-ce que c'est que d'être parfait. Donc, vous avez ce qui est parfait, selon l'étymologie, perfectum. Bonne étymologie. Perfectum. Une étymologie d'Isidore. Alors, c'est tout à fait... C'est le factum achevé. Donc, c'est l'achevé. Ça reste très psychologique. Parfait, c'est l'achevé. Parfait, c'est celui qui a atteint sa croissance, l'acmé, le sommet. Le sommet est une idée de perfection dans l'ordre de la croissance. C'est croissance. Ici, c'est psychologie. Ici, c'est la croissance. C'est encore psychologie, d'une certaine manière. Mais c'est plutôt la vie. Parfait dans la vie. Il y a différents degrés. Ici, c'est psychologique et artistique. C'est du côté du Fatscherer. Le parfait dans le Fatscherer. Le parfait dans la vie. C'est le sommet. On ne peut plus croire. On a atteint son sommet. Et puis, le troisième point de vue, c'est que le point de vue qualitatif. Alors, j'avais presque dit un métaphysique. Le parfait, c'est celui qui est le plus qualitatif. Donc, celui qui a une originalité. Vous n'êtes parfait que quand vous êtes original. Hein. Quand vous êtes dans le commun. C'est la vie commune, du commun. On est dans le commun. Il n'y a pas grand-chose à l'heure, évidemment. La vie commune la plus parfaite, je vous l'ai déjà dit, l'œcuménisme le plus parfait, c'est l'essai. Hein? Nous existons tous, c'est l'arche de Noé. Tous ceux qui existent ont les fonds dedans. N'est-ce pas? C'est l'essai, c'est le plus commun. Donc c'est quand même moins qualitatif. Hein? Vous voyez, alors du côté de l'essai, c'est très curieux. Alors Dieu, c'est l'essence. Ce n'est pas qualitatif. C'est qualitatif et original. Mais c'est commun. C'est l'opposition. Donc on est bien au niveau métaphysique, là. La philosophie première. De façon très particulière. C'est intéressant de voir comment saint Thomas gradue, vous voyez, les objections par rapport au parfait. Alors, le sept contrat, il tombe du ciel. Quatrième dimension, il tombe du ciel. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc là, on dit bien que Dieu est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains philosophes, alors ça c'est très intéressant quand saint Thomas revient aux philosophes, hein. Certains philosophes de l'Antiquité, les pythagoriciens et Speusippe, regardez bien dans la carte là-bas, hein, Speusippe, vous l'avez trouvé, Speusippe, au dire d'Aristote, se refusèrent à attribuer au premier principe l'excellence et la perfection souveraine. La raison en est que les philosophes anciens ne surent appliquer leur recherche qu'à l'unique principe matériel et que le principe matériel est à la vérité ce qu'il y a de plus imparfait. La materia prima, c'est ce qu'il y a de plus imparfait. Et le principe matériel, c'est l'imparfait. Comme en effet, la matière en tant que telle est en puissance, le premier principe matériel doit être en puissance absolument, applause, et ainsi absolument imparfait. Mais quand Dieu est appelé premier principe, on ne l'entend pas d'un principe matériel. Il est principe dans l'ordre de la causalité efficiente. Or, un tel principe doit être au contraire parfait. Car si la matière comme telle est en puissance, pour la même raison, l'agent comme tel est en acte. Il s'ensuit que le premier principe actif doit être parfait au maximum. Car un être est dit parfait selon qu'il est en acte. Et dans la même mesure, vu que parfait signifie ce à quoi rien ne manque, de ce qui se rapporte à sa perfection. Ça, c'est la définition du parfait du philosophe. Vous voyez, saint Thomas aurait pu la donner dès le point de départ. Il l'a mis au terme. C'est intéressant de voir ça. Il a éliminé d'abord le gros équivoque. Le gros équivoque, c'est de considérer que le principe, c'est le principe matériel. C'est de tout ramener à un principe matériel. Si vous ramenez tout à un principe matériel, il est évident que le premier principe n'est pas parfait. Mais si vous comprenez qu'à côté du principe matériel, il y a un principe efficient, une cause efficiente, et que le premier principe, c'est avant tout une cause efficiente, vous comprenez alors à ce moment-là que qui dit premier principe dit perfection au maximum. Mais saint Thomas dit unde primum principium activum opportet maxime esse inactu. Et par conséquent, maxime ens perfectum. Alors, voyez bien, on a dit omnino simplex, et quand il s'agit de parfait, on dit maxime. Pour ceux qui s'intéressent au langage de saint Thomas, c'est très intéressant de voir comment saint Thomas va qualifier chacun de ses manières d'être. On qualifie la manière simple de Dieu en disant omnino simplex. C'est-à-dire d'une simplicité absolument pure. Et la simplicité appelle la pureté, alors que la perfection appelle le maximé. C'est tout à fait différent. Deux choses tout à fait différentes. Et c'est intéressant à noter ça, parce qu'alors ça permet de mieux comprendre ce que ça veut dire quand on dit que Dieu est tout à fait parfait. Quand on dit que Dieu est parfait, on ne dit pas que Dieu est tout à fait parfait. On dit qu'il est parfait maximé. Dans l'ordre de la perfection, il atteint le sommet. Il dit le sommet maximum. Pas du tout l'idée du sommet dans la simplicité. C'est au contraire le dépouillement. C'est tout à fait autre chose. Alors, voyez aussi, c'est intéressant, quel est le métaxu par laquelle on rejoint le point de vue de la perfection? C'est l'acte. Donc, tous les ports du point de vue métaphysique, c'est de comprendre le lien qui existe entre parfait et l'acte. La cause efficiente est en acte. La première cause efficiente est totalement en acte. Donc, elle est parfaite. Mais passage de l'acte à la perfection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça hein? Quelle différence y a-t-il entre acte et parfait, quoi, tout simplement? L'acte, au niveau métaphysique, ça touche l'être. L'acte est un principe. La perfection n'est pas un principe. C'est une manière d'exister. Mais pour atteindre cette manière d'exister, il faut passer par l'acte. L'acte n'est pas une manière d'exister. Plus, ça touche l'être. Ça qualifie l'être. C'est un principe d'être. Tandis qu'au contraire, la perfection n'est pas un principe d'être. La perfection regarde une manière d'exister. Donc, vous passez du ti esti au pos. C'est ça qui est intéressant à voir, pour bien comprendre la manière dont saint Thomas parle de ce que représente cette étude. Vous voyez, l'acte est de l'ordre du ti esti. La parfaite, c'est de l'ordre du pos. La manière d'exister. dis ça exprès pour que vous arriviez petit à petit à bien comprendre hein, ce que représente la recherche de l'analyse et ce que représente la contemplation. On ne contemple pas un principe. On contemple une manière, la manière dont une personne existe. Une personne. Alors, la personne, c'est un pose. C'est une manière d'exister. On ne contemple pas un principe, on le découvre. Le principe, c'est un peu sec. C'est un peu trop sec. Vous saisissez, ça. Le principe actue, permet à votre intelligence d'aller jusqu'au bout et d'arriver à la contemplation. Ça, c'est très, très vrai. Elle permet, elle purifie votre intelligence. Vous voyez bien, donc, le passage ici que fait saint Thomas en écartant de Dieu toute matérialité, ça a été vu dans la question sur la simplicité, Dieu ne peut pas être un principe matériel parce qu'il est absolument simple. Donc, on écarte de Dieu toute matérialité, on regarde en Dieu uniquement ce qu'il est, en premier lieu, cause efficiente. Or, la cause efficiente implique l'acte, donc implique la perfection. Et alors, une fois qu'on a dit ça, on applique tout simplement. Car un être est dit parfait selon qu'il est en acte, et dans la mesure même, vu que parfait signifie ce à quoi rien ne manque, de ce qui se rapporte à sa perfection. Nam perfectum dicitur, qui nihil deest, secundum modum sui perfectionis. Vous voyez cette définition, qui n'est pas une définition, hein, parce que si, au point de vue définition, c'est une très mauvaise définition, puisque vous définissez le parfait par le parfait. Donc c'est merveilleux comme définition. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que le parfait ? Ce à quoi rien ne manque de ce qui se rapporte à sa perfection. Excellente, hein, vous voyez. Là, vous saisissez saint Thomas en flagrant délit d'erreur au point de vue logique. C'est une très mauvaise définition. On n'a pas le droit de faire ça au point de vue définition. C'est absolument impossible. Ce qui montre bien que le souci de saint Thomas, c'est pas de définir. Il aurait été suffisamment intelligent pour s'apercevoir que c'était une erreur. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il veut tout simplement nous donner une manière très simple de saisir ce que c'est que le parfait. Un oiseau est parfait quand il a tout ce qui est nécessaire à sa nature. Donc, on pourrait remplacer perfection par nature. Par sa propre nature. Vous êtes parfait quand vous avez ce qui correspond à la nature de l'homme. Vous seriez né avec un bras en moins. On aurait dit privation. Il n'est pas parfait, ce pauvre petit. Il lui manque un bras. Il lui manque une main. Pourquoi ? Parce que vous avez une idée de ce que c'est que l'espèce humaine. Si tous les hommes n'avaient qu'un bras, là, vous diriez à ce moment-là, ils ne sont pas imparfaits, ils ont un bras. Parce que vous avez une idée de ce que c'est que l'espèce de l'homme. Alors c'est pour ça qu'on dit, et vous voyez, c'est pour ça que c'est pas une, c'est simplement une approche de ce que c'est que la perfection. La perfection, ça ne se définit pas. C'est un sommet. Comment voulez-vous définir un sommet ? Vous ne pouvez pas aller plus. Voilà ce que vous dites. Quand le gosse atteint un sommet, il dit, oh, il n'y a plus d'étage après. Tu es au dernier étage, tu es au sommet. Il voudrait grimper encore. Il n'y a plus rien après. On touche le sommet. C'est ça le parfait. C'est quand on atteint le sommet. Alors, c'est ce à quoi rien ne manque. La perfection répugne à la privation. C'est cette idée, tout simplement, très simple. Donc, saint Thomas au père montre que la perfection s'oppose à la privation. Un être est parfait quand il ne lui manque rien. De ce qui convient à sa nature. Disons pas à la perfection, mais de ce qui convient à sa nature. Alors, il ne lui manque rien de ce qui convient à sa nature. Alors, il est parfait. Voyons maintenant la réponse, c'est facile, aux objections. Comme le dit saint Grégoire, première objection, hein, comme le dit saint Grégoire, nous balbutions comme nous pouvons les grandeurs de Dieu. Ça, c'est très bien, ça permet de tout dire, ça. Le balbutiement de l'enfant. C'est très beau, du reste, hein, parce que ça montre bien. Saint Thomas est tout à fait conscient. Il balbutie les perfections de Dieu. Les attributs de Dieu, ce sont des litanies. Dieu est saint, Dieu est parfait, priez pour nous, priez pour nous. Vous voyez, c'est une litanie. C'est une louange, c'est une louange. C'est comme ça qu'on doit le considérer. Nous, nous sommes avec à l'analyser. Très bien. En fond, c'est une louange, les perfections de Dieu. On loue Dieu, il est absolument saint. On loue Dieu, il est parfait. Les pères de l'Église, quand ils parlent d'attributs de Dieu, c'est pour louer Dieu. Quel est le lieu de la grande louange de Dieu? Ce sont les psaumes. Bien, les psaumes donnent tous les attributs de Dieu. Tous les attributs de Dieu sont dans les psaumes. C'est une louange. Alors, cette louange, le théologien précise ce qu'elle signifie. Et c'est entouré de la louange, autrement qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que c'est toujours une contemplation. Parce que la louange implique la contemplation. Donc, c'est dans une contemplation que le théologien précise Dieu est absolument saint. Dieu est maximum. Donc, on balbutie quand il s'agit des perfections de Dieu. En vérité, ce qui n'a pas été ne devrait pas être parfait. Ce qui n'a pas été fait, pardon, ne devrait pas être parfait. Mais parce que parmi les choses qui se font, on dit parfaite la chose qui a passé de la puissance à l'acte. Par métaphore, on emploie le même mot pour signifier la chose à laquelle il ne manque rien de la plénitude de son être. C'est déjà un peu mieux, vous voyez, la plénitude de son être. La plénitude, c'est très proche de la perfection. Qu'elle obtienne par manière de perfection et d'achèvement ou le possède d'une autre manière. Ah, c'est très joli comme objection, comme réponse. Saint Thomas nous montre que, en effet, pour nous, génétiquement parlant, notre premier concept de perfection vient de l'activité artistique. Ça, c'est très intéressant. C'est du fonction. Notre premier concepteur, notre première manière de concevoir ce qui est parfait provient du fonction, provient de l'œuvre. C'est vrai, ça. On dit l'œuvre est parfaite. C'est rare que vous dites ce que vous dites est parfait. Mais donc, il y a bien cette idée de que l'œuvre, c'est quelque chose qui est fait, et que ce qui est quelque chose qui est fait demande d'être parfait. Une œuvre demande d'être parfaite. Elle réclame ça. Elle réclame d'être achevée. Donc, c'est bien l'idée de perfection est liée à l'achèvement. La perfection est liée à l'achèvement. Parce que c'est lié au facturé. Selon notre manière de connaître. Mais cependant, métaphoriquement, hein, voyez bien, hein, métaphoriquement, transmutatur opnomen perfectum, donc analogiquement, on va transporter ce mot de parfait, d'achevé, à des réalités qui n'ont jamais été faites. Parce que être fait, c'est l'origine de la perfection, mais ce n'est pas la perfection. Et c'est en ce sens-là que je peux analogiquement transposer le mot parfait de achever à quelque chose qui n'est pas achevé et qui pourtant est parfait. Là, il y a quelque chose de très joli comme analogie, vous voyez. C'est de dissocier dans perfectum l'origine du perfectum et ce qu'est le perfectum. La signification véritable du perfectum n'est pas liée à son origine. Et donc, je peux transposer le mot parfait, qui au point de départ est lié à son origine, à quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je peux dire que Dieu est parfait. Vous voyez, donc la première objection est très intéressante pour comprendre ce que c'est que la perfection, ce que c'est que la purification analogique. Seconde objection, Le parfait, c'est le sommet dans l'ordre de la croissance vitale. Il est vrai, oui, ça peut me reconnaître, j'aime bien, quoi. Il est vrai que dans notre monde, les principes des choses sont imparfaits. Si on l'entend, des principes matériels. Mais le principe matériel ne peut pas être premier absolument. Il est précédé d'un autre, et celui-ci est parfait. Car la semence qu'on donne en exemple est sans doute le principe de l'animal engendré de cette manière. Mais elle-même a pour principe un autre animal. C'est l'œuf et la poule. Hein, on va très bien. Hein, là, on va monter indéfiniment. Hein. Mais elle-même a pour principe un autre animal ou une autre plante d'où elle se détache. Et ainsi toujours, avant la chose en puissance, on doit trouver la chose en acte, vu que l'être en puissance n'est amené à l'acte que par quelque chose, que n'est amené à l'acte que par quelque chose qui est en acte. Et c'est ce qu'Aristote a dit dans le livre Theta à propos de l'antériorité de l'acte sur la puissance. Et ça demeure reprend ici toute cette métaphysique de l'antériorité de l'acte sur la puissance pour montrer comment nécessairement on doit découvrir avant la croissance ce qui est source de la croissance. Et donc, là encore, purification par rapport au terme de parfait, par rapport à la signification de parfait, purification, tout ce qui est antérieur au parfait, c'est-à-dire l'origine. Dans la chemise, regardez la cause efficiente. C'est-à-dire la signification. Le problème de la signification, le problème de l'origine. Ici, seconde objection, vous distinguez dans le parfait ce qui conduit à la perfection, ce qui conduit au sommet et le sommet. Donc, vous faites la même distinction. Distinction entre l'origine et la signification. Dans parfait est impliqué l'origine et la signification. L'origine, elle n'est pas appliquée à Dieu. Je n'applique que la signification. C'est très beau comme manière d'opérer. Oui. Alors enfin, la qualité, ça c'est plus intéressant. On a donc bien tort d'appeler l'être même une réalité imparfaite. Dit Chandu, ipsum esse est perfectissimum omnium. Ça, c'est la réaction du métaphysicien. Hein, faut bien voir. C'est la plus parfaite de toutes, l'essai. C'est ce qu'il y a de plus parfait. Perfectissimum omnium. C'est la plus parfaite de toutes les réalités. Car à l'égard de toutes les autres, elle joue le rôle de l'acte. Elle est acte d'être. Si l'essai est acte d'être, l'essai est ce qu'il y a de plus parfait. Rien n'a d'actualité que selon ce qu'il est. C'est donc que l'être même est l'actualité de toute chose et des formes elles-mêmes. L'être n'est donc point, par rapport au reste, dans la relation de ce qui reçoit à ce qui est reçu, mais plutôt comme la chose reçue à l'égard de ce qui la reçoit. Quand, par exemple, je dis l'être laissé de l'homme, ou de cheval, ou de quoi que ce soit, j'envisage l'essai même comme un principe formel et comme ce qui est reçu, non comme nature à laquelle survient l'exister. Cum enim dico esse hominis vel equi vel cuius cumque alterius ipsum esse consideratur ut formale et receptum non autem ut illud cui competit esse. Donc j'espère que vous voyez la réaction vive de saint Thomas pour dire que l'essai n'est pas ce qui est le plus commun et le plus imparfait. Saint Thomas dit que l'essai, c'est la qualité des qualités. Donc l'essai représente ce qu'il y a de plus parfait. Ça représente le perfectissime. Donc c'est au-delà de toutes les qualités. La qualité est déjà parfaite, mais là, c'est ce qu'il y a de plus parfait. C'est le perfectissimum dans le sens le plus fort, c'est-à-dire ce qui correspond à la perfection. Vous ne pouvez rien ajouter à l'essai. C'est ce qu'il y a de plus parfait. Acte d'être. Vous voyez, c'est toujours l'idée d'acte qui permet à Saint-Amand de rejoindre le enfin, à travers toute la quête, tout ça. Article, c'est très net. Hein. C'est bien l'idée de l'acte qui rejoint, qui fait le lien entre le point de vue de l'être et de la perfection. Alors, l'article second, c'est l'heure. Combien de temps ? 5 minutes. Bon, on va encore entrer dedans. Dans le temps. Trouve-t-on en Dieu les perfections de toutes choses ? Cette seconde idée, vous voyez, une fois qu'on a compris, c'est très simple comme arrêt au point de vue métaphysique. Dieu est acte pur, donc il est nécessairement parfait. Dieu est cause efficiente première, alors comme toute cause efficiente est en acte, il est nécessairement parfait. Alors maintenant, c'est la comparaison avec les autres. Enfin, la comparaison avec les autres, c'est plus difficile, c'est l'intégration de toutes les perfections dans la perfection de Dieu. Alors, je vois tout de suite le deux niveaux. Ça, c'est intéressant. Les autorités ne sont plus les mêmes. Hein. Denis, de l'ordre, c'est tout à fait le point de vue de la perfection. Denis a dit, Dieu, par sa seule existence, possède d'avance tout le reste. Deus in uno existentia prehabet omnia. Toutes perfections sont en Dieu. Parce que toute perfection vient de Dieu. Oui, certes, les perfections de toutes choses sont en Dieu. Aussi est-il dit universellement parfait. In Deo sunt perfectiones omnium. Unde dicitur universaliter perfectum. Donc vous avez le maxime perfectum et l'universalité. Voilà comment on qualifie la perfection de Dieu, maxime universalitaire. Il est universellement parfait. Parce que de toutes les perfections qu'on peut découvrir dans toutes les ordres, aucune ne lui manque, ainsi qu'affirme le commentateur Averroès dans la métaphysique. Très rare que Saint-Amand fasse autorité avec le commentateur Averroès, hein, le païen. C'est ce, vous voyez, ce païen, il est quand même beau. Hein. Il dit que toutes les perfections sont en Dieu. Ce païen, il n'est quand même pas un païen tout à fait comme les autres. Donc, c'est ce qu'on peut démontrer de deux façons. Voici la première. On va montrer que toutes les perfections sont en Dieu. La perfection de la rose. Hein, la perfection de la rose. La rose est le petit carnet. Toutes les perfections sont en Dieu. C'est bien ce que saint François dit. Hein? L'humain. Ça lui faisait penser à Dieu. L'eau, ça lui faisait penser à Dieu. Le feu. Toutes les perfections sont en Dieu. Donc chaque perfection, c'est un reflet de la perfection de Dieu. Alors, première raison. Tout ce qu'il y a de perfection dans les faits doit se retrouver dans la cause efficiente, que ce soit en nature propre, comme lorsqu'il s'agit d'un agent univoque, ainsi l'homme engendre l'homme, ou bien éminemment, alors c'est ça qui sauve tout. Il y a comme ça des mots qui sont merveilleux, qui sauvent tout. Ou bien éminemment, dans le cas de l'agent équivoque. Comme dans le soleil se trouve l'équivalent de ce qui est engendré par la vertu solaire. Ce qui est engendré par la vertu solaire au Moyen-Âge, c'est la petite grenouille, le tétard. Eh bien, le tétard se trouve dans le soleil, puisqu'il est engendré par le soleil. Vous voyez ? Le soleil est source de la vie. Et donc, toutes les générations spontanées expriment quelque chose du soleil. C'est ça qu'il y a dans l'idée, hein, il faut bien comprendre. Hein, parce que vous soleil qui est tellement païenne, hein, qu'on va divorer du soleil de saint Thomas qui est vivant, qui est un être vivant. Donc l'homme engendre, l'homme est engendré par l'homme et le soleil. Hein. Jamais l'oublier. Et le soleil. Donc le soleil a quelque chose à dire par rapport à chacun d'entre nous. Si nous sommes engendrés le matin, à midi ou le soir, le soleil agit différemment sur chacun d'entre nous. C'est cette idée-là, cette idée qui vient des anciens, qui vient d'Albert le Grand. Ou bien éminemment, dans le cas de l'agent équivoque, comme dans le soleil se trouve l'équivalent de ce qui est engendré par la vertu solaire. Car il est évident que tout effet préexiste virtuellement dans sa cause agente, et préexiste ainsi virtuellement, quand il s'agit de la vertu agente efficace. Et ce n'est pas préexister d'une façon moins parfaite, mais plus parfaite. Bien que préexister en la puissance d'une cause matérielle soit préexister plus imparfaitement. C'est que la matière comme telle est imparfaite. Au contraire, l'agent comme tel est parfait. Comme donc Dieu est première cause efficiente des choses, les perfections de toutes choses doivent préexister en Dieu. Selon le mode supérieur, Denis signale cette raison quand il dit de Dieu, il n'est pas ceci à l'exclusion de cela, mais il est tout en tant que cause de tout. Vous voyez, ça peut être très dangereux, hein, mais le panthéisme, hein, l'attend, qui peut être là-dedans. Il est tout selon qu'il est cause de tout. Il s'agit de bien comprendre. Dicens dedeo, quod non hoc quidem est, hoc autem non est, sed omnia est, ut omnium causa. Il est toute chose parce qu'il est cause de tout. Donc toute chose préexiste en Dieu, selon un mode éminent. Toutes les qualités, toutes les perfections des choses proviennent de Dieu. Et donc toutes ces perfections préexistent en Dieu. Vous voyez le jeu imaginatif qu'il peut y avoir. Hein. C'est très beau, il faut le dire. On doit certifier ça. On n'a pas le droit de ne pas le dire. Hein. Dieu est cause efficiente de toutes les réalités. Or, la cause efficiente contient éminemment la perfection de l'effet. Donc, nécessairement, Dieu contient les perfections de toutes les réalités. Alors, la seconde raison est beaucoup plus difficile, et beaucoup plus métaphysique, et très belle. La seconde raison est celle-ci. Nous avons démontré que Dieu est l'être même subsistant, l'ipsum esse subsistant, en soi. Il s'ensuit évidemment qu'il contient en soi toute la perfection de l'être. Ça, c'est beau comme conclusion. Il est l'ipsum esse subsistant, donc il contient la perfection de tous les êtres. Car si, par exemple, un corps chaud n'a pas en lui toute la perfection de la chaleur, c'est qu'il ne participe pas dans sa plénitude ce qui correspond à la nature de cet attribut, la chaleur. Mais si la chaleur elle-même subsistait, rien ne pourrait lui manquer comme pouvoir propre à la chaleur. Comme donc Dieu est l'être même subsistant, l'ipsum esse subsistant, rien ne peut lui manquer de la perfection de l'essence. Or, toutes les perfections des choses se rattachent à la perfection de l'essai, car les choses sont parfaites selon qu'elles sont l'essai de telle ou telle manière. D'où il suit que Dieu ne manque de la perfection d'aucune créature. Et cette raison encore a été indiquée par Denis quand il dit « Dieu n'est pas de telle ou telle manière, il est absolument et sans contour limitateur. Il ramasse en son unité tout l'être. » Un peu plus loin, il ajoute, c'est lui qui est l'être de tout ce qui subsiste. Alors vous voyez, ça c'est une petite formule qui est aussi très proche d'un panthéisme. ipsum est esse subsistentibus. Il est l'existé de tous les subsistants.